Écho d'économie.
Le match RDC-Zambie, c'est dans quelques heures. La RDC va donc marquer son entrée à la CAN 2024. Si les deux pays sont pour l'occasion adversaires sportifs, sur le terrain économique, la Zambie et la RDC sont plutôt des alliés. Comprendre les finances du processus électoral de 2023, le Centre de recherche en finances publiques et développement local essaie de répondre à cette question dans son nouveau rapport. Nous en parlons avec Valérie Mandianga, coordonnateur du CREFEDEL. Bienvenue à tous. Dans quelques heures, la RDC va marquer son entrée dans la CAN 2024. Les léopards de la RDC seront face aux Zambiens. Si pour l'occasion, les deux pays sont des adversaires sportifs, la Zambie et la RDC sont plutôt des alliés sur le terrain économique. C'est ce que nous fait remarquer Cynthia Bachizi Nabizana.
La Zambie comme la RDC sont deux pays dont les activités minières représentent à elles seules environ 70% des recettes d'exportation et à ces titres, ils sont les plus grands pourvoyeurs de cuivre et de cobalt au monde. Richesses minières concentrées le long de leurs frontières communes où se dresse la zone appelée la ceinture du cuivre. Fort de ces atouts, la Zambie et la RDC ont décidé de mutualiser leurs efforts pour développer une usine de batteries pour véhicules électriques. Un protocole d'accord a été signé à ce sujet entre les deux voisins en 2022 aux États-Unis en marge du forum États-Unis-Afrique. Et pour faciliter la connectivité et relancer les activités économiques, un nouvel accord sur la gestion d'une voie ferrée reliant les régions minières de la RDC, la Zambie et le port de Lobito en Angola a été signé par les présidents de ces trois pays au cours de l'année 2023. Signalons également que le poste frontalier de Kasumbalesta dans le Katanga entre la RDC et la Zambie est l'un des plus importants points de passage du pays, cela en termes de flux migratoires, mais aussi en termes de transit de marchandises. La proximité économique se joue aussi sur le terrain agricole. La RDC traverse une crise d'approvisionnement en farine de maïs, très consommée localement. Une délégation gouvernementale congolaise avait, il y a quelques mois, séjourné en Zambie pour espérer trouver définitivement une solution pour l'importation de la farine et des grains de maïs, beaucoup produits en Zambie. Peu importe le gagnant du match RDC-Zambie à la CAN, cet affrontement sportif ne nous fera pas oublier que nous avons plus de victoires communes sur le terrain économique à préserver.
Du 15 janvier au 19 janvier, des chefs d'État et de gouvernement ainsi que plusieurs centaines d'économistes, chefs d'entreprise et activistes de la société civile se réunissent à Davos, en Suisse, pour le Forum économique mondial. Objectif, aborder l'état du monde et discuter des priorités pour l'année à venir. Le président Tshisekedi, qui prépare son investiture ce samedi 20 janvier, est le grand absent cette année à Davos. En effet, Félix Tshisekedi avait participé à cette messe économique avec une importante délégation gouvernementale. Sur place, le président de la République avait vanté devant des dirigeants et investisseurs mondiaux les opportunités d'affaires offertes par la RDC. Mais au-delà des questions économiques, le Forum de Davos est aussi le lieu de prédilection pour la diplomatie parallèle. Ainsi, des chefs d'État rencontrent énormément leurs homologues et d'autres acteurs pour échanger sur des questions connexes. Bonne nouvelle pour les habitants de la province du Kasaï oriental en général et plus particulièrement ceux de Mbujimayi. La ville enregistre une baisse sensible de prix de maïs, un aliment de base de cette province, vendu il y a deux semaines à 10 voire 12 000 francs congolais. La mesurette de maïs se négocie actuellement entre 4 000 et 7 000 francs congolais. Une situation qui réjouit plusieurs ménages. Esther Dalafina, reportage.
Sur le marché, on trouve deux qualités de maïs. La qualité la plus sollicitée par les ménagères est celle produite au cours de la saison culturelle B. Sa mesurette se vend à 7 000 francs congolais. Pourtant, elle s'est vendue la semaine dernière à 10 000 voire 9 000 francs congolais. Le maïs de cette saison culturelle A est en train d'être récolté depuis le mois de décembre à ce jour. La mesurette se négocie déjà autour de 4 000 francs congolais pour cette qualité de maïs. La présence sur le marché de maïs de ces deux saisons culturelles a entraîné la baisse de prix de cet aliment de base de la province. Un motif de satisfaction pour les femmes ménagères.
Le maïs est vendu même à 12 000 par méga. Depuis la récolte, nous avons trouvé des qualités de maïs. Au moins un changement, il y a baisse de prix. Très content, mais nous voulons que ça puisse rabaisser plus que ça. Nous sommes en train de produire localement.
Nous avons vraiment la joie pour cette fois-ci parce qu'il y a baisse de maïs au marché. Au mois de novembre, et c'était même rare sur les marchés. Mais pour cette fois-ci, Nous voyons le maïs au marché, prix abordable.
Pendant que les prix des denrées alimentaires sont en baisse, ceux de produits manufacturés augmentent sur le marché. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Écho d'économie.
Comment comprendre les finances du processus électoral de 2023? C'est à cette question que le Centre de recherche en finances publiques et développement local tente de répondre dans son nouveau rapport. Cette structure note un dépassement budgétaire, une opacité dans la gestion des fonds et de l'attribution des marchés publics. Pour en parler, nous recevons Valérie Madianga, coordonnateur du CREFEDEL. Il répond aux questions de Cynthia Bachizi Nabizana.
Valérie Madianga, bonjour.
Bonjour madame.
Alors vous avez sorti, le Centre de recherche en finances publiques, CREFEDEL, a sorti un nouveau rapport dans lequel vous êtes penché sur les fonds alloués aux élections en RDC. Et globalement, grosso modo, il ressort de ce rapport que l'écart entre le montant que la CENI déclare avoir reçu et celui qui a été effectivement décaissé par le Trésor public est de 161 millions de dollars américains. Comment est-ce que vous expliquez ça?
Oui, la gestion d'abord des fonds alloués aux opérations électorales, c'est une gestion qui est pratiquement opaque, irrationnelle et non crédible. Donc, c'est pourquoi vous constaterez qu'il y a des écarts entre les décaissements et même l'utilisation. Cela démontre que les fonds qui sont décaissés en faveur de la CENI ne passent pas par la chaîne de la dépense publique. Ils ne respectent pas le circuit qui est standard dans le cadre d'une bonne gestion des finances publiques. Et aussi, cela démontre que la CENI n'a pas une seule source de financement. Il y a plusieurs sources de financement. C'est pourquoi la CENI elle-même a du mal à retracer ce qui est réellement décaissé par l'État congolais.
Peut-on avoir une idée sur ces autres sources de financement de la CENI en dehors du Trésor public?
L'unique source qui est reconnue, c'est le Trésor public. Mais dans la pratique, vous avez aussi le Premier ministre au niveau de la primature qui donne des ordres. Vous avez au niveau de la présidence de la République. Donc ça tourne dans tout le sens. C'est pourquoi aujourd'hui, le budget de la CENI a pratiquement explosé. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas réellement qu'est-ce que la CENI veut utiliser avec ces fonds-là.
En parlant d'explosion budgétaire, vous relevez une hausse de 25,1% des dépenses de la CENI entre justement les deux cycles électoraux. Est-ce que vous avez pu approcher la CENI qui peut-être avancer quelques raisons pour expliquer cette situation-là?
Nous avons écrit à la CENI pour chercher à comprendre davantage, organiser une séance de confrontation, c'est-à-dire que les documents que nous avons, on devrait les confronter aux avis de la CENI. Mais la CENI n'a jamais répondu à toutes nos lettres.
En définitive, donc le rapport dit que le budget alloué aux opérations électorales est caractérisé par l'opacité, l'absence de crédibilité et de sincérité des chiffres. Maintenant que le rapport est rendu public, vous vous attendez à quoi?
Maintenant, nous devons passer à la redevabilité. Il faut que la CENI rende compte. Nous ne voudrons plus avoir une CENI qui n'est pas redevable vis-à-vis du peuple congolais parce que les fonds que la CENI a utilisés, c'est les fonds du contribuable congolais. C'est la population qui est le premier contributeur. C'est à lui de savoir pourquoi la CENI a, par exemple, surfacturé les dispositifs électroniques de vote. Pourquoi la CENI a surfacturé les kits d'enregistrement des électeurs? Parce que nous sommes dans le même pays. La CENI, nous l'avons vu en 2017, la CENI a acheté les kits d'enregistrement des électeurs à 45 millions d'euros auprès de l'opérateur Gemalto. Maintenant, en 2022, la CENI achète les mêmes équipements auprès de Miro System à 92 millions de dollars pour le contrat initial et après, avec un contrat annexe, ce qui nous amène à 130 millions de dollars, pratiquement les triples.
C'est des accusations fortes de surfacturation. Est-ce que vous avez des éléments probants?
Les documents sont là.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais les avis d'attribution sont là. Des marchés sont en ligne. Nous, on ne dit rien. Accédez sur le site de l'armée, de l'autorité de régulation des marchés publics. Vous allez voir l'avis d'attribution du contrat passé entre le président Nanga avec la firme Gemalto en 2016. Les documents sont jusqu'aujourd'hui en ligne. Consultez les nouveaux document d'attribution du marché que le président Kadima a fait avec Mirou System, le document est en ligne. Nous, on ne crée absolument rien. Vous allez voir 45 millions d'euros et vous allez voir 92 millions de dollars avec Gemalto, avec Mirou System. Tout est en ligne. Donc, nous, on ne crée absolument rien. Ce sont des chiffres de la CENI. C'est la CENI qui est en train de les fournir. Nous, en tant que société civile, nous sommes en train de porter tout simplement notre jugement critique par rapport aux documents officiels, faire des simulations, comprendre que nous sommes dans un même environnement économique, nous sommes dans un même pays, même si on nous dira non, écoutez, il y a par exemple l'inflation, mais nous doutons que même s'il y a inflation, on ne peut pas passer de 45 millions d'euros à 130 millions d'euros juste pour le même besoin. Non, et puis à l'espace de 4 ans, nous avons opté pour l'informatisation des outils de la CENI, c'est-à-dire que passer par des votes numériques, avec le numérique, je pense que ça devrait nous permettre de réduire les coûts au lieu d'exploser les coûts. Pourquoi? Parce que vous avez le même besoin, la CENI est restée la même, vous avez le même besoin, mais chaque président vient avec ses chiffres. Ce qui n'est pas normal.
Valérie Mantianga, je rappelle que vous êtes donc directeur général du Centre de recherche en finances publiques et développement, CREFEDEL en sigle. Je vous remercie.
Merci, madame.
Fin des codes économiques. Merci de l'avoir suivi. Hippolyte Kapanga a signé à la prise de son. Dieudonné Nyangassa à la mise en onde. Bonne suite des programmes sur Radio Okapi.